Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 28 janvier 2021. Bonjour, bienvenue. En RDC, le pasteur Daniel Ngoï Mulunda, ancien président de la commission électorale au début des années 2010 sous le régime Kabila, a été condamné mercredi à 3 ans de prison à Lubumbashi pour atteinte à la sécurité de l'État. Sa condamnation est un nouveau coup porté contre l'entourage de l'ancien président en pleine offensive de son successeur, Félix Tshisekedi, pour consolider son pouvoir. Le pasteur était poursuivi pour avoir posé des conditions au maintien du Katanga dans le giron de l'unité nationale congolaise lors d'une cérémonie le 16 janvier à la mémoire de Laurent Désiré Kabila, père et prédécesseur de Joseph Kabila, assassiné jour pour jour 20 ans auparavant. Au Mali, les autorités de transition dominées par les militaires qui ont renversé Ibrahim Boubacar Keïta en 2020 ont mis à la disposition du président de CHU un cabinet de 4 membres selon le journal officiel. Ibeka aura donc à sa disposition un directeur de cabinet et 3 chargés de mission, dont un médecin et une informaticienne, selon un décret signé le 31 décembre par le président de transition Bandao. Arrêté par les militaires le 18 août, après des mois de contestation populaire, le président Keïta, qui fêtera ses 76 ans demain vendredi, avait démissionné quelques heures plus tard. Le président tanzanien John Magufuli a mis en garde mercredi contre les vaccins contre le coronavirus, les qualifiant de potentiellement dangereux et appelant les autorités sanitaires à ne pas se précipiter pour vacciner la population. M. Magufuli a systématiquement minimisé la gravité de l'épidémie et affirmé que son pays en avait été largement épargné grâce aux prières des Tanzaniens. Ces commentaires interviennent au moment où les craintes d'une nouvelle vague augmentent en Tanzanie, où l'épidémie de COVID-19 a officiellement été éradiquée. Le petit royaume du Lesotho, qui connaît une forte augmentation de nouveaux cas de coronavirus, a décidé hier de prolonger le strict confinement décidé à la mi-janvier, le taux de contamination restant très fort et très dangereux. La forte croissance de cas recensés date de la période des fêtes, quand le petit pays enclavé au milieu de l'Afrique du Sud, en pleine deuxième vague de la pandémie, a autorisé plus de 120 000 de ses citoyens qui y travaillaient à entrer sans être testés. Le gouvernement a donc décidé de prolonger l'actuel confinement pendant 7 jours à compter du 3 février, a déclaré le Premier ministre dans un discours télévisé. Une enquête a été ouverte en Tunisie après la réception d'un courrier suspect destiné au chef de l'État, Kais Saied, ont annoncé mercredi les autorités, la présidence algérienne évoquant, elle, une tentative d'empoisonnement. Un courrier ouvert mardi par la chef de cabinet de M. Saied contenait une matière suspecte et une enquête a été ouverte pour déterminer sa nature et sa provenance. Des médias tunisiens ont évoqué un soupçon de courrier à la ricine, un poison potentiellement mortel. Personne n'a été indisposé. Le courrier n'est pas arrivé entre les mains du président. L'Égypte a annoncé avoir récupéré mercredi, après des années de négociations, environ 5000 pièces antiques des États-Unis, où elles avaient été frauduleusement envoyées. Selon le responsable en charge du dossier des pièces restituées, il s'agit principalement de manuscrits, mais aussi de masques funéraires, des parties de cercueils et des têtes de statues en pierre. Ces pièces qui ont été sorties frauduleusement d'Égypte seront entreposées maintenant au musée copte du Caire. Ici aux États-Unis, l'administration Biden a annoncé mercredi une remise à plat de la politique américaine au Moyen-Orient avec un réexamen du soutien militaire aux monarchies du Golfe et une reprise envisagée du dialogue avec l'Iran qui, je cite, prendra un certain temps. Sur le front du changement climatique, Joe Biden a affirmé mercredi que son pays devait guider la réponse mondiale à la menace existentielle de la crise du climat en signant de nouveaux décrets pour lutter contre le réchauffement de la planète et en annonçant l'organisation d'un sommet international consacré au sujet au mois d'avril. VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal, République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale fait tomber le Premier ministre proche de l'ex-président Kabila. La France demande à la Guinée de faire toute la lumière sur les opposants détenus et le gouvernement américain a émis mercredi une première fois un bulletin d'alerte antiterroriste consacré aux menaces posées par les extrémistes opposés à la présidence de Joe Biden. Jean-Roger Billon à ce micro, on revient dans un instant, nous émettons de Washington.
La
La suite de nos informations en ce jeudi 28 janvier 2021. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a adopté hier à une écrasante majorité une motion de censure contre le Premier ministre proche de l'ex-président Joseph Kabila. La mesure consacre une victoire politique de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le point avec Nanit Talani.
À Kinshasa, l'Assemblée nationale a adopté par 367 voix la motion de censure visant le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et son gouvernement. Ce dernier doit démissionner dans les 24 heures selon la Constitution. Absent de la séance, M. Ilunga Ilunkamba, issu du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, a dénoncé dans une lettre au président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale une manœuvre politicienne sans fondement au mépris des exigences de l'état de droit. Il affirme que ce bureau provisoire n'est pas compétent pour examiner une telle motion de défiance. La plupart des députés du FCC ont boycotté la séance. Le vote de l'Assemblée nationale représente une victoire pour le président Tshisekedi en quête d'une nouvelle majorité depuis son annonce en décembre de la fin de la coalition au pouvoir qu'il formait avec le camp de son prédécesseur Kabila.
Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a demandé au président guinéen Alpha Condé de faire toute la lumière sur les opposants en prison agitant la menace de mesures coercitives à l'encontre de Conakry. Nathalie Barge.
Avec l'Union européenne, nous avons demandé aux autorités de Guinée de faire toute la lumière sur les événements qui se déroulent en ce moment, avec éventuellement des mesures à prendre si cette lumière n'est pas faite, a déclaré Jean-Yves Le Drian au Sénat. Les États-Unis et l'Union européenne ont dénoncé la semaine dernière la mort en détention de deux opposants, Mamadou Ouribari et Roger Bamba, dus à des causes naturelles selon le gouvernement. Le parquet guinéen a requis lundi 10 ans de prison ferme contre un autre opposant, Mamadi Condé, poursuivi pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, après avoir publié des vidéos critiques contre le pouvoir. À plusieurs reprises, nous avons marqué la nécessité d'un dialogue entre les autorités et l'opposition, a souligné M. Le Drian, en soulignant l'avoir dit au président Condé lors de l'investiture du président ghanéen Nana Akufo-Addo le 7 janvier à Accra.
Ici aux États-Unis, le ministère de la Sécurité intérieure a publié hier mercredi un bulletin d'alerte antiterroriste évoquant un climat de menaces accrues. Des menaces liées à des extrémistes violents opposés à la présidence de Joe Biden. Mouamadou Oumfa nous en dit plus.
Selon le bulletin d'alerte, des informations suggèrent que des extrémistes violents ayant des objections à l'exercice de l'autorité gouvernementale et à la transition présidentielle, ainsi que d'autres griefs alimentés par des récits mensongers, pourraient continuer à se mobiliser et à commettre des violences. Le bulletin ajoute que certains de ces extrémistes pourraient avoir été galvanisés par l'intrusion le 6 janvier dans le Capitole, en référence à l'assaut meurtrier des partisans de Donald Trump sur le siège du Congrès. Cependant, le ministère précise dans un communiqué ne pas avoir d'informations sur un complot crédible spécifique, mais s'est dit déterminé à protéger les infrastructures critiques et les populations qui pourraient être ciblées en raison de leur religion, race, origine, identité ou opinion politique. Il invite aussi les Américains à se montrer vigilants. Prenez en compte votre environnement et votre sécurité personnelle. Gardez les contacts d'urgence et autres informations essentielles sur vous, recommande-t-il.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco, présentée par Nanit Talani.
Le conseil d'administration du FMI a accepté de prolonger de 6 mois l'allègement immédiat du service de la dette du Mali au titre du Fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes. Cet allègement permettra au gouvernement de Bamako de dégager des ressources financières pour continuer de renforcer les capacités médicales du pays et de s'attaquer aux répercussions sociales et économiques de la pandémie de COVID-19. Le PIB de l'Afrique subsaharienne devrait croître de 2,7% cette année après une chute de 3,7% l'an dernier, estime la Banque mondiale. La reprise devrait être légèrement plus rapide dans les pays exportateurs de produits agricoles comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Malawi et l'Ouganda. La reprise sera par contre plus difficile pour les exportateurs de métaux ou de pétrole. L'an dernier, l'Afrique a connu sa première récession en 25 ans. Pour terminer, le changement climatique entraînera une perte annuelle de 2 à 4% du PIB dans la région du Sahel d'ici à 2040, estime l'indice de vulnérabilité au changement climatique 2017. Pour contrer ces pertes, ces dernières années, la Banque africaine de développement a multiplié par 5 les ressources allouées au financement de l'adaptation au changement climatique et de résilience dans la région du Sahel.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Toutes les affiches des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations sont connues. Le groupe D a désigné les derniers qualifiés pour les quarts à l'issue des deux rencontres d'hier. La Guinée et la Tanzanie se sont séparés sur un match nul de 2-2. Match nul également 0-0 entre la Namibie et la Zambie. Guinéens et Zambiens restent en tête de ce groupe D avec 5 points de chaque côté, suffisant pour rejoindre les quarts dimanche. En quart justement, la Guinée fera face au Rwanda et la Zambie rencontrera le Maroc bien avant. Samedi, les deux premiers quarts de finale mettront aux prises le Congo et le Mali. Puis la RDC défiera le pays hôte, le Cameroun, dans le derby de l'Afrique centrale. La phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations s'est donc achevée hier. Au micro d'Élisée Mpatine, notre correspondant au Bénin, certains confrères sur le continent ont livré leurs impressions à l'issue de ce premier tour bien engagé. On écoute Sidoine Amoussou de Passion Football Club.
Globalement, il faut dire que la compétition est de très bon niveau. Sincèrement, moi j'ai été agréablement surpris du niveau affiché par les équipes. Surtout les équipes d'Afrique de l'Est, ça joue bien au football.
Suivons à présent Steven Lavon, journaliste sportif togolais.
Très très bon match. De très jolis buts, beaucoup d'engagement, de détermination. Très, très, très beau tournoi jusque-là. Sincèrement, c'est sûrement l'un des meilleurs champs. Hein. Déjà parce qu'on a de très jolis stades, de bonnes pelouses, parce que ça a été souvent un facteur déterminant dans la production du beau jeu.
On écoute aussi Albert Ougoudidji du service des sports du Radio Bénin.
C'est la première compétition en période du Covid qui autorise du public. Même si c'est à 25% de la capacité des stades, on voit qu'il y a une belle ambiance. Les supporters qui sont là, ils animent bien. On espère que ça va continuer jusqu'à la fin de la compétition.
Suivant à présent, Karino Chanoun du site Afrique Sport.
Nous avons vu des matchs avec une haute intensité, avec de l'envie, avec de l'engagement. C'est vrai que ce sont des équipes perfectibles, mais ça reste du football.
Et enfin, on écoute Eric Kouam, journaliste sportif à Royal FM à Yaoundé.
On a pensé à un moment donné que certains pays auraient pu traverser le premier tour, mais aujourd'hui, ces pays sont restés à la traîne, comme pour dire quoi, que la qualité du spectacle et la qualité du jeu dans les championnats locaux ne permet pas, n'est-ce pas, de se délecter. Donc, le football local doit encore se développer.
Des propos recueillis par Élisée Mpatine, notre correspondant au Bénin. Mondial de handball, fin de parcours pour l'Égypte. Les Danois, champions du monde 2017 et olympiques 2016 en titre, ont recouru à une séance de tir au but pour éliminer les Pharaons en quart de finale hier au Caire. Après une rencontre à rebondissement, les deux équipes étaient à égalité 35-35. Après les 60 minutes de jeu réglementaire et deux périodes de 2 fois 5 minutes de prolongation, lors de la séance de jet de 7 mètres, les Danois se sont imposés 4-3 et se sont qualifiés pour les demi-finales. Dans les matchs de classement, la République démocratique du Congo s'est inclinée devant le Chili 30-35. Le Maroc a pris le dessus sur l'Angola 30-29. La Tunisie s'est imposée face à l'Autriche 37-33.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon, toujours en votre compagnie. À présent, un autre dossier du jour. En République démocratique du Congo, le Premier ministre a été destitué hier par une motion de censure à l'Assemblée nationale. Sylvestre Ilunga Ilunkamba a en principe 24 heures pour déposer sa démission auprès du président Félix Tshisekedi. Les observateurs craignent une crise institutionnelle en RDC si le chef du gouvernement refuse de s'exécuter. Eddy Isango a joint un juriste rodé dans les affaires constitutionnelles, l'avocat après la cour d'appel de Gombe, Maître Willy Wenga.
Avec le vote de la motion de censure contre le Premier ministre et son gouvernement, la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoient que dans les 24 heures, le Premier ministre devra déposer sa lettre de démission auprès du président de la République. Donc, le gouvernement est réputé démissionnaire, c'est-à-dire le gouvernement ne peut plus poser aucun acte juridique, aucun arrêté ne peut être signé par le ministre et le Premier ministre ne peut plus signer aucun décret. Mais pour la formalité constitutionnelle, il faudra que le Premier ministre dépose sa démission auprès du président de la République.
Le Premier ministre ne s'est pas présenté devant les bureaux d'âge parce qu'il reproche à ces bureaux d'âge un certain nombre de choses. Il y a une crise. Si jamais le Premier ministre ne démissionnait pas, que va-t-il se passer?
Si le Premier ministre ne démissionne pas conformément à l'article 147 de la Constitution, sur le plan de droit, il y a crise parce qu'à ce moment-là, il y a une confrontation entre le Premier ministre et son gouvernement avec l'Assemblée nationale. Et là, pratiquement, si cette crise persiste, c'est l'article 146 qui va entrer en jeu de la Constitution. C'est-à-dire le constat de la crise persistante qui amènera le président de la République à procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais il faut retenir que devant cette majorité écrasante à l'Assemblée nationale, les politiciens avec tous ceux qu'ils ont comme vent en poupe ne vont pas attendre cette solution juridique d'aller jusqu'à l'article 148. Certainement, ils vont procéder par une solution politique tendant à forcer le premier ministre à abandonner son poste, à abandonner son bureau. Peut-être ils vont lui retirer la garde, lui retirer tous les avantages liés à sa qualité de premier ministre. Donc, en définitive, lui forcer physiquement, lui forcer psychologiquement à démissionner, quand bien même que cette démission ne sera pas déposée juridiquement. C'est cette cacophonie-là qui va être considérée comme une crise, qui en principe devrait amener le président de la République à dessous de l'Assemblée nationale. Mais je ne pense pas qu'on va arriver jusqu'à ce niveau-là.
Le premier ministre, dans sa note, reproche au bureau d'âge défaut de qualité pour pouvoir l'entendre. Ne pensez-vous pas qu'il va saisir plutôt les instances judiciaires?
Oui, certainement, c'est la voie de droit la plus indiquée pour le premier ministre de saisir la Cour constitutionnelle pour recevoir de la Cour l'arbitrage afin de savoir si le bureau d'âge était compétent pour statuer sur la motion de censure ou si le bureau n'est pas au-delà de sa compétence.
Ça veut dire que dans 24 heures, il ne va pas déposer sa démission?
Oui, c'est-à-dire dans le cas de la confrontation juridique, il peut ne pas déposer la démission, mais il pourra saisir la Cour constitutionnelle. Mais je ne pense pas que la Cour constitutionnelle lui donnera une réponse qui lui sera favorable.
Puisqu'il y a eu rupture de la coalition et que le Premier ministre semble rester dans les camps de ceux qui sont fidèles à l'ancien président Joseph Kabila, ne pensez-vous pas qu'il pourrait opter plutôt pour la seconde option, celle d'aller avec la confrontation jusqu'à peut-être à la dissolution, parce que maintenant le Parlement est favorable au président Félix Tshisekedi?
Dès lors que le président Félix Tshisekedi s'est assuré de la majorité qui s'est bien retracée au niveau de l'Assemblée nationale, je ne pense pas qu'il permettra encore d'aller vers la solution de la dissolution.
Maître Willy Wenga, avocat après la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe.
Restez branchés sur VOA Afrique à Kisangani sur 97.7 FM.
Le Congo-Brazzaville, qui sera bientôt relié au Gabon par une route bitumée, dont le financement est un prêt de la Banque africaine de développement, les autorités congolaises ont lancé les travaux d'un premier tronçon de cette route, tronçon qui va relier Dolisi à Kibangu. Prenons la route avec ce reportage de notre correspondant Arsène Séverin.
Depuis la fin de la colonisation, partir de Dolisi à Kibangu dans le Niari au sud-ouest du Congo est un vrai calvaire. La route n'existait presque pas sur les 93 kilomètres à bitumer, ont reconnu les autorités. La population, en majorité paysanne et vivant des activités agricoles, jubile pour avoir vu en 60 ans les premiers kilomètres de route goudronnée. Elle exprime également les difficultés de transport auxquelles elles sont confrontées.
La route est difficile. Pour arriver, pour aller vendre le manioc, on peut faire 4 jours en route, vraiment, pour aller à Pointe-Noire. Pour aller à Dolisi aussi, c'est les boulous, là où s'arrête le goudron, c'est difficile pour arriver.
Oui, bon, sortir les colis d'ici, c'était au départ un grand problème, un grand problème. Il y avait des colis qui périssaient même. Bon, je voudrais citer par exemple l'exemple de la crevette, le poisson, par manque de camion. Vous attendez pendant un jour, deux jours, et bon, le poulet est obligé de périr. Bon.
Que chez nous, là-bas, à Divenier, on cultive l'arachide, le manioc, tout. On préfère peut-être aller vendre ça au Gabon, mais si, la route pourra être bien.
Dieu merci pour nous que cette route-là
arrive jusqu'ici, on aura un nouveau pont. Bon, il est là, en face de nous, en construction.
Il s'agit de la route nationale numéro 3, Dolisie frontière Gabon. Grâce à 2,2 milliards de financement de la Banque africaine de développement, un premier tronçon, Dolisie-Kibangu, est en pleine construction. Le représentant de la BAD promet d'autres financements pour la suite des travaux.
La banque, pour sa part, en sa qualité de chef de file, des bailleurs de fonds, des projets, des franchissures, continuera sans relâche de jouer sa partition avec les autres partenaires techniques et financiers afin de relever le niveau de stock des franchissures et de soutenir la diversification économique et la transformation structurelle de cette partie du continent.
Le Congo, qui finance ses travaux à hauteur de 400 millions de francs CFA, met en avant l'intérêt de cette route. Jean-Jacques Bouya, ministre de l'aménagement du territoire.
C'est donc un maillon important de la liaison entre Brazzaville et Libreville. Pas moins qu'il contribue à relier le Gabon à la République démocratique du Congo et à l'Angola par le Cabinda. Lorsque sera réalisée la route de Dolisie-Kimongo-Londé-Lakai, dont les études sur financement Banque africaine de développement sont en cours.
Les travaux de construction de cette route ont été lancés au village Pont du Niari par le président Denis Sassou Nguesso. De retour du Pont du Niari dans le sud-ouest, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Sénégal, le musée des civilisations noires de Dakar accueille une exposition qui regroupe 17 œuvres d'art de Léonard de Vinci, reproduites en grandeur nature. Malgré la grande portée artistique de cet événement, le public lui accorde peu d'attention pour diverses raisons. Le constat de notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
Mamour est un Sénégalais bontain. Il travaille en ville, à quelques mètres du musée des civilisations noires. Cependant, comme il l'explique en Wolof, le jeune homme n'y a jamais posé les pieds et il ne s'intéresse pas trop à l'art et à la culture. Il ne connaît donc pas le célèbre artiste peintre Leonardo da Vinci.
Je ne connais Leonardo da Vinci, sincèrement, jamais entendu parler de lui. J'avoue que je ne m'intéresse pas à la culture. Je ne suis jamais allé au musée. J'ai d'autres centres d'intérêt.
Ousmane est venu faire des courses en centre-ville. Il connaît Leonardo da Vinci. Par contre, il n'était pas au courant que les œuvres de l'artiste interplanétaire étaient exposées au musée des civilisations noires.
Oui, de nom. Non, je n'étais pas au courant. Je n'ai pas vu ça dans la presse. Je regarde la presse, mais je n'ai pas. Si je m'intéresse à la culture, mais je pense que bon, ça, moi, ça me fait rien que des tableaux de Léonard de Vinci soient exposés. Ça m'apporte rien du tout. Et je pense que c'est la majeure partie de la population. Donc, dans le contexte actuel, pour de chercher du boulot, éviter le Covid.
Enfin, un qui ne connaît pas da Vinci que de nom. Néanmoins, comme nos précédents interlocuteurs, il ne savait pas que 17 de ses œuvres, reproduites en grandeur nature, étaient exposées au musée des civilisations noires. Ce furie de la culture s'en désole.
Je n'étais pas au courant, c'est vous qui nous l'apprenez. Je crois que c'est lui qui a peint la Joconde. Ok, voilà, je connais, mais je n'étais pas au courant que vraiment il y a de ces œuvres qu'on a exposées ici. Peut-être que c'est le manque de temps ou bien la publicité n'est pas passée. Sinon, moi, je vais souvent à des expositions. Comme Ozal m'a dit, j'ai un ami qui est peintre qui expose ses œuvres jusqu'au mois de février. Mais pour Léonard de Vinci, franchement, je n'étais pas au courant. Ça ne marche pas parce que ça faisait longtemps que Dakar était une plaque tournante de tout ce qui est culture. Et ça fait des années que Dakar a perdu cette renommée-là. Hein.
Pour Ousseynou Wade, commissaire associé de l'exposition, cet événement est une occasion unique pour les Sénégalais de découvrir les œuvres magnifiques de Leonardo da Vinci.
Il arrive parfois que des génies apparaissent à travers le monde de temps en temps, ici ou là, et émerveillent le monde par leur créativité, leur esprit d'imagination, leur productivité à la fois intellectuelle, artistique, scientifique. Léonard de Vinci fait partie de ces catégories de personnes-là. Et c'est pourquoi nous parlons toujours de génie.
Leonardo da Vinci est né le 15 avril 1452 à Vinci et est mort le 2 mai 1519 à Amboise. Il était un peintre italien et un homme d'esprit universel, à la fois artiste, scientifique et architecte. Il est l'auteur de plusieurs chefs-d'œuvre, dont le célèbre tableau La Joconde. Malheureusement, l'exposition à Dakar de 17 reproductions grandeur nature de ses œuvres ne suffit pas à emballer des Sénégalais toujours très marqués par les contraintes du Covid-19. Seydina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Le président américain Joe Biden a signé mardi une série de décrets qui, selon la Maison-Blanche, feront progresser l'égalité raciale pour les Américains qui ont été laissés pour compte. Les actions de M. Biden rejettent le racisme, les préjugés et la xénophobie, y compris contre les Américains d'origine asiatique suite à la flambée du coronavirus. Patsy Widakuswara, correspondant de VOA à la Maison-Blanche, fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma.
La quête de justice raciale est au centre de préoccupation aux États-Unis depuis la mort de George Floyd à Minneapolis en mai dernier. Le président Joe Biden.
C'était un genou sur le cou de la justice. Et cela ne sera pas oublié. Cela a éveillé la conscience de dizaines de millions d'Américains. Et à mon avis, cela a marqué un tournant dans l'attitude de ce pays envers la justice.
Selon la Maison-Blanche, les quatre décrets signés mardi par le président Biden feront progresser l'égalité raciale pour les Américains qui sont laissés pour compte. L'Africaine-Américaine Susan Rice est directrice du Conseil de la politique intérieure de la Maison-Blanche.
These aren't feel-good policies.
Ce ne sont pas des politiques de bien-être, c'est évident. Investir dans l'équité, c'est bon pour la croissance et cela crée des emplois pour tous les Américains.
Les actions de Biden prennent le contre-pied de plusieurs politiques de l'administration Trump. Il a demandé aux agences de renforcer les lois antidiscrimination sur le logement et mettre fin à l'utilisation des prisons privées par le ministère de la Justice, une pratique qui, selon les militants, a aggravé les disparités raciales. Bien que le taux d'incarcération de Noirs ait diminué ces dernières années, il est toujours plus de 5 fois plus élevé que le taux d'incarcération des Blancs. Steve Phillips est de l'organisation Democracy in Color.
Si vous avez un système à but lucratif qui paye les gens en fonction du nombre d'incarcérations, ils voudront mettre de plus en plus de gens en prison. Donc les incitations sont toutes fausses en termes de capacité à répondre aux objectifs sociétaux de sécurité publique et de réadaptation des membres de notre société.
Biden réitère l'engagement du gouvernement américain à mieux consulter les 574 tribus amérindiennes reconnues au niveau fédéral. Et il veut aussi lutter contre la discrimination envers les Américains d'origine asiatique et les insulaires du Pacifique qui s'est intensifiée depuis le début de la pandémie de coronavirus. L'Américaine d'origine asiatique Tiffany Liu.
Les personnes qui ont l'air asiatique ou qui ont l'air chinois sont perçues comme porteuses du virus.
La pression de Biden pour distribuer les ressources en se concentrant sur les besoins des minorités est critiquée par les conservateurs qui estiment que la véritable égalité, c'est de donner à tous les mêmes ressources, peu importe leurs origines. Mike Gonzalez de la Heritage Foundation est un think tank basé à Washington.
La définition de l'égalité par la gauche est un traitement inégal pour obtenir des résultats égaux. Ce n'est pas ce que nous sommes. C'est ce que le marxisme prétend faire pour obtenir des résultats égaux. Nous n'avons pas les mêmes résultats. Nous permettons à tout le monde de s'épanouir.
Le programme d'égalité raciale de Biden cherche à répondre aux besoins de personnes qui l'ont aidé à gagner la Maison-Blanche. En 2020, les électeurs noirs ont représenté 11% de l'électorat et plus de 90% des Africains-Américains ont voté pour Joe Biden et Kamala Harris.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la pandémie de COVID-19, plus virulente que jamais en ce début d'année. Alors que 2 vaccins sont déjà lancés, leur lente distribution, la hausse alarmante du nombre de cas et la découverte de nouveaux variants semblent atténuer l'espoir que la maladie sera bientôt sous contrôle. Plusieurs pays, y compris en Afrique, ont réimposé des mesures de restriction draconiennes dans l'attente de vaccins. Avec nos invités, nous ferons le point sur la pandémie, les nouveaux variants du coronavirus et les vaccins. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless. Peace Africa.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous.